Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le premier ministre hongrois visitera l'Indonésie. L'Indonésie et l'Afrique devraient intensifier les relations entre le peuple. Le président Joko Widodo a confirmé que l'Indonésie était un ami de Timor oriental. L'Indonésie et Timor-Leste renouvellent la coopération des jeunes. L'Indonésie soutient pleinement le Laos de sa présidence de l'ASEAN en 2016. L'Union européenne et l'ASEAN développent la coopération pour résoudre le problème du terrorisme. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le premier ministre hongrois Viktor Orban et d'autres fonctionnaires du gouvernement concernés effectueront une visite officielle en Indonésie pour renforcer la coopération entre les deux pays. Selon le projet, le premier ministre de la Hongrie rencontrera le président Joko Widodo le 1er février 2016 à Jakarta. L'ambassadeur de la Hongrie en Indonésie, Judith Nemetsbach, a affirmé mardi à Jakarta que certains ministres hongrois visiteront l'Indonésie pour signer le mémorandum d'entente sur la coopération dans divers domaines. Maintenant, certainement, les relations entre les deux pays sont très importantes. Cela signifie l'augmentation des relations. Ce n'est pas seulement le premier ministre hongrois qui visitait, mais aussi avec la délégation et la moitié du cabinet hongrois. C'est-à-dire, le premier ministre visitera l'Indonésie avec quatre ministres, deux secrétaires d'État et aussi les institutions spéciales de la Hongrie. En outre, l'ambassadeur Judith a également déclaré l'ordre du jour de la signature d'un mémorandum de protocole entre la Hongrie et l'Indonésie, comme le mémorandum d'entente dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, de la technologie de recherche, l'éducation, le commerce, les contrats d'affaires et les autres qui pourraient être établis en partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Le premier ministre de la Hongrie et son entourage visiteront l'Université de Gadjah Mada, le Temple de Borobudur et le Palais de Yogyakarta. Comme un effort pour développer la coopération entre l'Indonésie et les pays africains, le gouvernement devrait encourager la création des relations de confiance entre les pays et les relations basées sur cette confiance deviennent la base pour la création des relations fortes dans le cadre de la coopération des pays. Cela a été transmis par le directeur de la Fondation de Brestert, Gregory Mills, au séminaire de la politique étrangère sur les relations entre l'Indonésie et l'Afrique, lundi à Jakarta. Il a également expliqué que l'Indonésie et les pays africains devaient améliorer les relations entre les communautés. Le premier est les relations entre les gens. Il n'est pas facile ce qui a été fait sur le terrain. Vous devez donner beaucoup de sacrifices pour le réaliser. Utilisez l'argent que vous disposez avec la sagesse pour promouvoir les échanges de l'étudiant, encourager les relations entre le peuple. Concernant le potentiel de la coopération concrète entre l'Indonésie et les pays africains, Gregory Mills a déclaré que l'Indonésie pourrait pénétrer le marché africain à travers le domaine de l'infrastructure. Selon lui, l'Indonésie a une bonne expérience dans le développement des infrastructures nécessitées par les pays africains. Il encourage également la création des relations harmonieuses entre les dirigeants régionaux en Indonésie. Cela peut être utilisé principalement pour partager leurs expériences dans la résolution de problèmes techniques dans la société. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était un partenaire clé du développement de Timor oriental, ainsi qu'un ami à proximité et un frère pour ce pays qui a de frontières avec Nusa Tenggara Est. Le président Joko Widodo, dans le déjeuner à Dili, au Timor oriental, mardi, comme cité par l'équipe de communication du président, Ari Dwipayana a déclaré que le président a dit que les deux pays se sentaient le lien et la coopération plus forte. Le président a remercié à l'attribution de plus haute décoration le grand collier de l'ordre du Timor-Leste du président de Timor-Oriental et selon lui, cette récompense est une grande responsabilité pour lui dans le maintien d'amitié, la fraternité et coopération étroite et mutuellement bénéfique entre les deux pays, l'Indonésie et le Timor-Leste. Le président indonésien espère que la visite au Timor-Oriental pourrait renforcer les relations entre les deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement de la République d'Indonésie, dans ce cas le ministère de la Jeunesse et des Sports, et le gouvernement de Timor-Leste ont renouvelé la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports après la fin de la coopération précédente. La signature de renouvellement de ce partenariat a été faite par le ministre des Jeunes et des Sports, M. Imam Nahrawi, et le secrétaire d'État chargé des Jeunes et des Sports de Timor-Leste, Leo Vigildo Ornai, à Dili, Timor-Leste, mardi, est témoigné par le président Joko Widodo et le président Taur Matan Ruak. Le ministre Imam Nahrawi, dans son explication écrite mardi, a déclaré que la coopération entre les gouvernements de l'Indonésie et le Timor-Leste a été effectivement réalisée depuis le 19 mai 2012 et s'est terminée le 19 mai 2015. Selon lui, à cette nouvelle coopération, les deux pays ont mis l'accent sur l'importance de la mise en œuvre des sports dans la frontière des deux pays. Ceci est efficace pour améliorer les relations bilatérales entre les deux pays par l'interaction de la communauté frontière. En outre, les deux pays ont également convenu de renforcer les relations bilatérales en organisant des matchs d'amitié des différents sports. Avec la nouvelle coopération, le ministre Imam Nahrawi espère que cette activité apporte une contribution positive pour l'amélioration des relations bilatérales et l'amitié des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a fait sa première visite à Vientiane, au Laos, le 27 janvier 2016. La visite vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et de donner le soutien à l'Indonésie contre la présidence du Laos de l'ASEAN en 2016. Lors de la visite, le ministre des Affaires étrangères fera une réunion bilatérale avec son homologue du Laos, Tunglun Sisulit, et fera une visite de courtoisie au premier ministre du Laos, Tongsing Tamfong. Plusieurs questions bilatérales qui seront discutées, entre autres, le renforcement de la coopération dans le commerce et l'investissement, la protection des travailleurs migrants et les contacts de peuple à peuple. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, discutera également de diverses choses pour la réussite du Laos de sa présidence de l'ASEAN en 2016 sous le thème « Tourner une vision en réalité pour la communauté dynamique de l'ASEAN ». L'Indonésie et le Laos ont établi des relations diplomatiques presque de 6 décennies depuis le 30 août 1957 et l'investissement indonésien au Laos en 2014 a atteint 1,1 million de dollars américains. Les deux pays établissent également de bonnes relations commerciales avec le commerce total de 2014 à atteindre 55,80 millions de dollars américains. Le principal produit d'exportation de l'Indonésie au Laos, entre autres les outils et accessoires de véhicules, l'électronique et le prêt-à-porter. Cependant, les importations de l'Indonésie en provenance du Laos sont le tabac, le café, l'huile essentielle, le calcium et l'aluminium. Le Laos est également l'un des pays qui ont reçu des bourses d'études d'Indonésie. 13 participants en provenance du Laos ont participé au SEMA du programme de bourse d'études des arts et de la culture pour la période de 2003 jusqu'à 2015. Et 61 participants qui ont eu participé au programme Dharma Siswa pour la période 1974 jusqu'à 2015. L'Union européenne, à travers l'ouverture d'un bureau de représentation de l'ASEAN à Jakarta, espère peut développer la coopération pour lutter contre le terrorisme. Il a déclaré par l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Francisco Fontan Pardo, mardi à Jakarta. Le directeur de partenaires de dialogue de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Derry Aman, a déclaré que jusqu'à présent, l'Union européenne et l'ASEAN ont cherché des mesures concrètes pour lutter contre le terrorisme. Outre le terrorisme, l'ASEAN et l'Union européenne face aux défis humanitaires, l'ASEAN avec le cas des réfugiés Rohingyas du Myanmar qui était devenu un problème majeur en 2015. Tandis que l'Union européenne avec le cas des immigrants en provenance du Moyen-Orient, surtout la Syrie. Concernant cette question, l'ambassadeur Francisco a déclaré que l'Union européenne était très critique et possède une grande préoccupation sur la question humanitaire. Selon Derry Aman, l'Indonésie peut apprendre de plusieurs pays européens sur la solution du problème des nouveaux arrivants. Pour soutenir l'intégration de l'ASEAN et le secrétariat de l'ASEAN, l'Union européenne a alloué des fonds plus de 170 millions d'euros pendant la période 2014 jusqu'à 2020. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé Le président iranien a visité l'Europe. Samedi dernier, 23 janvier, le président chinois Xi Jinping a visité l'Iran. Cependant, lundi 25 janvier, le président iranien Hassan Rouhani a commencé une visite de 4 jours en Europe. La première visite de Rouhani à l'Italie, accompagnée par environ 120 personnes, comprenant des ministres et hommes d'affaires, et aussi le président Rouhani visite l'Italie et la France. Les projets de coopération d'une valeur de 18,4 milliards de dollars américains dans le secteur de l'infrastructure, l'industrie de l'acier et la production de navires avaient été convenus par l'Iran et l'Italie. À l'Italie, le président Hassan Rouhani a rencontré son homologue de l'Italie, Sergio Mattarella, le premier ministre Matteo Renzi et le pape François au Vatican. Le ministre italien du développement économique, Federica Guidi, a déclaré que l'Italie était également très désireuse de rétablir des relations commerciales avec l'Iran. 58% des exportations italiennes vers l'Iran en provenance du secteur de la mécanique. Ce mercredi, le président Rouhani visitera également la France. L'Iran a l'intention d'acheter 114 avions Airbus. L'Iran a besoin de 400 avions à longue distance et 100 avions pour une courte distance afin de soutenir la mobilisation des citoyens et aussi pour le transport vers les différentes parties du monde après la levée de l'embargo. L'Iran espère que la présence des nouveaux avions peut améliorer le secteur du tourisme et du commerce. Lors de la visite du président chinois Xi Jinping à Téhéran samedi dernier, le président iranien Hassan Rouhani a assisté à la signature de 18 coopérations dans le domaine de la politique, l'économie, la sécurité et l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le président Hassan Rouhani étant modéré et prêt à respecter l'accord nucléaire pour mettre fin aux sanctions économiques imposée par les Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis. L'objectif est à la croissance économique de 8% et les investissements étrangers de 30 jusqu'à 50 milliards de dollars américains par an. Tout cela est fait pour tenir sa promesse sur le bien-être du peuple d'Iran. Sa visite à l'Europe a été faite seulement une semaine après la levée des sanctions économiques. Le président Rouhani veut apporter des produits et la technologie occidentale pour montrer au peuple iranien que l'accord nucléaire, qui est refusé par les militants, pour résoudre les difficultés économiques. Son attitude est contraire au chef suprême de l'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, qui ne croyait pas à l'Ouest. Lors de la rencontre du président chinois Xi Jinping samedi dernier, Khamenei veut que le gouvernement iranien puisse augmenter la coopération économique et la sécurité avec la Chine, parce que l'Iran ne peut jamais faire confiance à l'Occident, tandis que la Chine est considérée comme un État plus indépendant. La décision du président Rouhani de rester près de l'Ouest a montré que les autorités iraniennes travaillent dur pour sortir des difficultés économiques et ce pays peut travailler ensemble avec n'importe quel parti. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec le cessez-le-feu des États-Unis et du Vietnam. Le 27 janvier 1973, après des négociations qui ont duré 4 ans, un traité de paix entre les États-Unis et le Vietnam du Nord a été signé à Paris. La guerre entre les États-Unis et le Vietnam du Nord a eu lieu depuis le Sud-Vietnam ont formé leur propre gouvernement qui est soutenu par les États-Unis. Selon l'accord de traité de Paris, les Américains sont prêts à retirer ses forces du Sud-Vietnam. Le nombre de soldats américains tués dans la guerre du Vietnam a atteint 60 000 personnes et des dizaines de milliers ont été blessés. Les résidents du Vietnam, du Nord et du Sud-Vietnam qui sont tués ont atteint 2 millions de personnes. Un autre événement historique est le bateau Tampomas II qui a coulé. Le bateau à moteur KMP Tampomas II est un navire appartenant de PT Pelni, touché par le feu et a coulé autour des îles Masalembo dans la mer de Java, y compris dans la région administrative de la province de Java-Est. Le navire Tampomas II, dirigé par le capitaine Abdul Rifai, voyageait de Jakarta à Sulawesi et a coulé le 27 janvier 1981. Le nombre total de passagers a atteint 1054 personnes, avec 82 membres d'équipage. Mais on a estimé que les passagers totaux sont élevés à 1442 personnes, y inclut des passagers illégaux. Les sauveteurs ont estimé que 431 personnes sont mortes et 288 personnes ont perdu avec le navire, tandis que 753 personnes ont été secourues. Chers auditeurs, nous terminons l'événement de l'histoire d'aujourd'hui avec les événements qui ont eu lieu le 27 janvier 1990. Le Muri a été créé. Le musée des records du monde d'Indonésie Muri, établi par Jaya Suprana dans les zones industrielles Jamu, Jago, Srondol, Semarang Sud. Muri a été inauguré par le ministre coordinateur pour le bien-être du peuple, Suparjo Rustam, et le ministre coordinateur chargé de la politique et de sécurité, Sudomo, assisté par le président de la Croix-Rouge indonésienne, Ibnu Sutowo, et le gouverneur de Java Central, Ismail. Ce musée est une place de recueillir les données de prestations superlatives qui se produisent en Indonésie, afin de préserver les piliers de la fierté nationale de l'Indonésie, pour que les gens indonésiens soient plus capables à apprécier l'initiative et le travail des gens indonésiens eux-mêmes. La Fondation de Mori est devenue l'inspiration des autres pays de créer respectivement autres institutions nationales de récolte. Cher Jamie de l'Antenne, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serge Blanten, voici donc la mise au point et pour le titre, la chasse illicite, une grande menace des animaux en Indonésie. Le secrétaire général de la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes du ministère de l'Environnement et des Forêts, Novianto Bambang, a affirmé que la chasse illicite est devenue l'une des grandes menaces qui a causé l'extinction de la faune en Indonésie. Dans l'atelier sur planification de la gestion mondiale des espèces, tenu à Royal Park Safari Garden, Cisarua Bogor, Java West, lundi 25 janvier 2016, Novianto Bambang expliquait à présent il y a la tendance de la diminution des populations fauniques en Indonésie et menacée de disparition en raison de la réduction ou de la destruction des habitats et la chasse illicite. Selon Novianto Bambang, l'Indonésie est en paix avec un niveau de menace extrêmement élevé contre l'extinction des espèces et génétiques. Entre autres, les taureaux de Java, cerf, cochon et anoa. Il a expliqué que les taureaux à Java Est sont souvent sachés parce qu'ils endommagent des terres agricoles et des plantations situées autour du parc national, alors que anoa est saché pour être consommé la viande. Novianto Bambang ajoutait que dans le plan de travail quinquennal, le gouvernement cible à accroître la population de 25 espèces d'animaux sauvages menacées à 10%, y compris le taureau javanais, les cerfs cochons et anoa. Ces trois espèces font partie d'une priorité, y compris les éléphants, les tigres de Sumatra, les nasiques, les aigles de Java et le tapir. Il a dit, un effort important pour empêcher l'extinction de la faune endémique en Indonésie doit être fait toujours, entre autres, en fixation le statut de protection de différentes espèces de faune à travers la loi et les règlements. D'autres efforts de conservation, selon lui, devraient également être effectués par l'intermédiaire des activités systématiques, à la fois dans l'habitat et à l'extérieur de l'habitat. La conservation à l'extérieur de l'habitat est concentrée sur le programme l'élevage ou la reproduction pour les espèces prioritaires dans les agences de conservation et les zoos à sauvegarder la population dans son habitat naturel. Novianto Bambang a ajouté que les efforts de conservation des taureaux javanais, le cerf cochon et anoa impliquent l'Association des zoos en Indonésie et sont effectués à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de la planification de la gestion mondiale des espèces en impliquant l'Association des zoos en Europe, l'Amérique du Nord et l'Association internationale pour la conservation naturelle. Il affirmait que l'Indonésie ne peut pas travailler seule parce que cela fait partie de l'état global. L'Indonésie peut apprendre et transférer des informations avec les pays qui ont fait des efforts de conservation à l'extérieur de l'habitat à l'échelle mondiale, comme le Brésil, l'Australie, l'Europe et l'Amérique. Le secrétaire général de l'Association des zoos en Indonésie, Tony Sumampau, a déclaré que la participation des zoos de l'Indonésie dans la gestion des animaux à l'extérieur de leur habitat comme une forme de contribution réelle aux efforts de conservation de la faune menacée, la disparition. Il espère, à l'avenir, le zoo en Indonésie peut améliorer les installations et l'infrastructure pour aider les efforts de conservation des animaux protégés, à augmenter la population et à maintenir l'authenticité génétique. Tony Sumampau a ajouté, Par intermédiaire de la planification globale de gestion des espèces, l'objectif est d'augmenter la population des animaux endémiques de l'Indonésie de 10% peut être atteint. Parce que l'expérience jusqu'à présent aux pays qui ont déjà adhéré, réalisé avec succès les efforts de conservation en dehors de l'habitat à l'échelle mondiale. Chers amis, c'était la mise au point pour ce soir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et d'autres fonctionnaires du gouvernement concernés effectueront une visite officielle en Indonésie pour renforcer la coopération entre les deux pays. Selon le projet, le Premier ministre de la Hongrie rencontrera le président Joko Widodo le 1er février 2016 à Jakarta. L'ambassadeur de la Hongrie en Indonésie, Judith Németspach, a affirmé mardi à Jakarta que certains ministres hongrois visiteront l'Indonésie pour signer le mémorandum d'entente sur la coopération dans divers domaines. Maintenant, certainement, les relations entre les deux pays sont très importantes. Cela signifie l'augmentation des relations. Ce n'est pas seulement le Premier ministre hongrois qui visitait, mais aussi avec la délégation et la moitié du cabinet hongrois. C'est-à-dire, le Premier ministre visitera l'Indonésie avec 4 ministres, 2 secrétaires d'État et aussi les institutions spéciales de la Hongrie. En outre, l'ambassadeur Judith a également déclaré l'ordre du jour de la signature d'un mémorandum de protocole entre la Hongrie et l'Indonésie, comme le mémorandum d'entente dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, de la technologie de recherche, l'éducation, le commerce, les contrats d'affaires et les autres qui pourraient être établis en partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Le Premier ministre de la Hongrie et son entourage visiteront l'Université de Gadjah Mada, le Temple de Borobudur et le Palais de Yogyakarta. Comme un effort pour développer la coopération entre l'Indonésie et les pays africains, le gouvernement devrait encourager la création des relations de confiance entre les pays et les relations basées sur cette confiance deviennent la base pour la création des relations fortes dans le cadre de la coopération des pays. Cela a été transmis par le directeur de la Fondation de Brestur, Grégory Mills, au séminaire de la politique étrangère sur les relations entre l'Indonésie et l'Afrique, lundi à Jakarta. Il a également expliqué que l'Indonésie et les pays africains devaient améliorer les relations entre les communautés. Le premier est les relations entre les gens. Il n'est pas facile ce qui a été fait sur le terrain. Vous devez donner beaucoup de sacrifices pour le réaliser. Utilisez l'argent que vous disposez avec la sagesse pour promouvoir les échanges de l'étudiant, encourager les relations entre le peuple. Concernant le potentiel de la coopération concrète entre l'Indonésie et les pays africains, Grégory Mills a déclaré que l'Indonésie pourrait pénétrer le marché africain à travers le domaine de l'infrastructure. Selon lui, l'Indonésie a une bonne expérience dans le développement des infrastructures nécessitées par les pays africains. Il encourage également la création des relations harmonieuses entre les dirigeants régionaux en Indonésie. Cela peut être utilisé principalement pour partager leurs expériences dans la résolution de problèmes techniques dans la société. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était un partenaire clé du développement de Timor oriental, ainsi qu'un ami à proximité et un frère pour ce pays qui a de frontières avec Nusa Tenggara Est. Le président Joko Widodo, dans le déjeuner à Dili, au Timor oriental, mardi, comme cité par l'équipe de communication du président, Ari Dwipayana a déclaré que le président a dit que les deux pays se sentaient le lien et la coopération plus forte. Le président a remercié à l'attribution de plus haute décoration le grand collier de l'ordre du Timor-Leste du président de Timor-Oriental et selon lui, cette récompense est une grande responsabilité pour lui dans le maintien d'amitié, la fraternité et coopération étroite et mutuellement bénéfique entre les deux pays, l'Indonésie et le Timor-Leste. Le président indonésien espère que la visite au Timor-Oriental pourrait renforcer les relations entre les deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement de la République d'Indonésie, dans ce cas le ministère de la Jeunesse et des Sports, et le gouvernement de Timor-Leste ont renouvelé la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports après la fin de la coopération précédente. La signature de renouvellement de ce partenariat a été faite par le ministre des Jeunes et des Sports, M. Imam Nahrawi, et le secrétaire d'État chargé des Jeunes et des Sports de Timor-Leste, Leo Vigildo Ornai, à Dili, Timor-Leste, mardi, est témoigné par le président Joko Widodo et le président Taur Matan Ruak. Le ministre Imam Nahrawi, dans son explication écrite mardi, a déclaré que la coopération entre les gouvernements de l'Indonésie et le Timor-Leste a été effectivement réalisée depuis le 19 mai 2012 et s'est terminée le 19 mai 2015. Selon lui, à cette nouvelle coopération, les deux pays ont mis l'accent sur l'importance de la mise en œuvre des sports dans la frontière des deux pays. Ceci est efficace pour améliorer les relations bilatérales entre les deux pays par l'interaction de la communauté frontière. En outre, les deux pays ont également convenu de renforcer les relations bilatérales en organisant des matchs d'amitié des différents sports. Avec la nouvelle coopération, le ministre Imam Nahrawi espère que cette activité apporte une contribution positive pour l'amélioration des relations bilatérales et l'amitié des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a fait sa première visite à Vientiane, au Laos, le 27 janvier 2016. La visite vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et de donner le soutien à l'Indonésie contre la présidence du Laos de l'ASEAN en 2016. Lors de la visite, le ministre des Affaires étrangères fera une réunion bilatérale avec son homologue du Laos, Tunglun Sisulit, et fera une visite de courtoisie au premier ministre du Laos, Tongsing Tamfong. Plusieurs questions bilatérales qui seront discutées, entre autres, le renforcement de la coopération dans le commerce et l'investissement, la protection des travailleurs migrants et les contacts de peuple à peuple. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, discutera également de diverses choses pour la réussite du Laos de sa présidence de l'ASEAN en 2016 sous le thème « Tourner une vision en réalité pour la communauté dynamique de l'ASEAN ». L'Indonésie et le Laos ont établi des relations diplomatiques presque de 6 décennies depuis le 30 août 1957 et l'investissement indonésien au Laos en 2014 a atteint 1,1 million de dollars américains. Les deux pays établissent également des bonnes relations commerciales avec le commerce total de 2014 a atteint 55,80 millions de dollars américains. Le principal produit d'exportation de l'Indonésie au Laos, entre autres les outils et accessoires de véhicules, l'électronique et le prêt-à-porter. Cependant, les importations de l'Indonésie en provenance du Laos sont le tabac, le café, l'huile essentielle, le calcium et l'aluminium. Le Laos est également l'un des pays qui ont reçu des bourses d'études d'Indonésie. 13 participants en provenance du Laos ont participé au CEMA du programme de bourse d'études des arts et de la culture pour la période de 2003 jusqu'à 2015 et 61 participants qui ont participé au programme Dharma Siswa pour la période 1974 jusqu'à 2015. L'Union européenne, à travers l'ouverture d'un bureau de représentation de l'ASEAN à Jakarta, espère pour développer la coopération pour lutter contre le terrorisme. Il a déclaré par l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Francisco Fontanpardo, mardi à Jakarta. Le directeur de partenaires de dialogue de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Derry Aman, a déclaré que jusqu'à présent, l'Union européenne et l'ASEAN ont cherché des mesures concrètes pour lutter contre le terrorisme. Outre le terrorisme, l'ASEAN et l'Union européenne face aux défis humanitaires, l'ASEAN avec le cas des réfugiés Rohingyas du Myanmar qui était devenu un problème majeur en 2015, tandis que l'Union européenne avec le cas des immigrants en provenance du Moyen-Orient, surtout la Syrie. Concernant cette question, l'ambassadeur Francisco a déclaré que l'Union européenne était très critique et possède une grande préoccupation sur la question humanitaire. Selon Derry Aman, l'Indonésie peut apprendre de plusieurs pays européens sur la solution du problème des nouveaux arrivants. Pour soutenir l'intégration de l'ASEAN et le secrétariat de l'ASEAN, l'Union européenne a alloué des fonds plus de 170 millions d'euros pendant la période 2014 jusqu'à 2020. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager en province des îles de Riau. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de La Voix de Mésie, le service international de RRI, soit sur OnCourt, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Serviteur, Sakai est l'une des tribus qui habitent dans la région antérieure de la province de Riau à Sumatra. Ils sont dispersés dans un certain nombre de régions, à savoir Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu et Siak. La plupart des résidentiels de Sakai étaient dans la zone villageoise de Kesumbu Ampai, atteignant environ 300 chefs de famille. Ils appartiennent à la race de Vendoit. En général, ils ont des caractéristiques physiques, à savoir la peau brune foncée avec des cheveux bouclés et ondulés. Le mot Sakai est une abréviation de la rivière, le village, fils, poisson. Sur la base de l'abréviation, ces gens vivent autour de la rivière et leur vie dépend de la richesse de la rivière comme les poissons. Cette tribu a aussi un mode de vie qui est encore nomade, se déplaçant d'une région à l'autre. Serviteurs, les communautés autochtones de Sakai dans la province de Riau, connues pour sa force physique, qui est souvent associée avec le mysticisme. Le nom Sakai est donné par les Japonais lorsqu'ils ont colonisé cet archipel. Ces peuples autochtones sont redoutés par l'armée japonaise en raison de leur force. La tribu Sakai continue à combattre les Japonais et les envahisseurs font souvent le tracas à cause de magie possédée par Sakai. Par conséquent, les colonisateurs n'ont pas osé pour les forcer à participer à un travail forcé ou ramusha. Le Japon les appelle avec le nom Sakai parce que leur forme physique est semblable à Sakai au Japon. Le clan Sakai au Japon est également le samouraï le plus fort à l'ère de l'empire de Tokugawa du 14e siècle. En japonais, Sakai signifie également fort. Serviteur, la tribu Sakai est connue pour sa force. En fait, elle a ses propres recettes traditionnelles pour ajouter de la force physique. Elle les appelle Urek Petoga. Ces recettes traditionnelles sont données toujours à chaque bébé. Par conséquent, les enfants de la tribu de Sakai sont forts. Urek Petoga se compose de 8 espèces de plantes forestières. La source principale est la racine mince de l'arbre Petoga, comme les racines de banyan. Les autres matières premières sont les bois de dolik, de danto, ainsi que plusieurs sortes de rotan, comme le rotan batu, le rotan sogo et le rotan gemantan. Serviteur pour les bébés, 8 ingrédients sont bouillis dans l'eau et ces eaux sont utilisées pour la baignade. Puis, frotter uniformement dans tout le corps, de sorte que le corps est fort. Lorsque Urek Petoga est utilisé comme un tonique pour les hommes, les recettes traditionnelles d'Urek Petoga nécessitent l'ingrédient complémentaire, à savoir le merlan. Tous les ingrédients sont mélangés et ensuite consommés crus pendant 3 jours consécutifs avant la lune pleine. Pour en profiter, il y a des conditions. Pour ceux qui boivent Urek Petoga, doivent s'asseoir sur le fer. Dans les temps anciens, ils ont utilisé une pierre très dure appelée granit. Serviteuses et serviteurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Les recettes traditionnelles d'Urek Petoga ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien. Bonsoir, chers amis, voici Apprendre l'indonésien. Aujourd'hui, notre programme a pour titre Berbelanja di toko serba ada. Ou en français, faire du shopping au supermarché. Comme d'habitude, nous vous présentons les vocabulaires liés à la conversation. Toko serba ada, toko serba ada, en français, supermarché. Kemarin, kemarin, en français, hier. Harga, harga, en français, prix. Murah, murah, en français, moins cher. Tidak jauh dari rumahku. Tidak jauh dari rumahku. En français, non loin de ma maison. Kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah. En français, besoin de l'école. Buku, buku. En français, livre. Kertas, kertas. En français, papier. Pulpen, pulpen, en français, stylo. Alat rumah tangga, en français, appareil ménager. Solusine, solusine, en français,
Duzen. Berapa harganya? Berapa harganya? En français, combien ça coûte? Kualitas. Kualitas. En français, qualité. Lumayan. Lumayan. En français, assez bon. Chers auditeurs, écoutez le dialogue entre Lia A. et Rina B. A. Rina, kemarin aku pergi ke toko serba ada. Rina, kemarin aku pergi ke toko serba ada. Rina, hier je suis allée au supermarché. Barang yang dijual di sana murah-murah. Barang yang dijual di sana murah-murah. Les marchandises vendues là-bas ne sont pas chères. B. Oh, aku belum tahu. Oh, je ne sais pas encore. Di mana lokasinya? Di mana lokasinya? Où est-il situé? A. Di Jalan Gatot Subroto, tidak jauh dari rumahku. Di Jalan Gatot Subroto, tidak jauh dari rumahku. Il est situé à rue Gatot Subroto, non loin de ma maison. B. Barang apa saja yang dijual di sana? Barang apa saja yang dijual di sana? Quelles marchandises qui sont vendues là-bas? A. Macam-macam, mulai dari kebutuhan sekolah, buku, kertas, pulpen, juga alat-alat rumah tangga. Macam-macam, mulai dari kebutuhan sekolah, buku, kertas, pulpen, juga alat-alat rumah tangga. Les divers genres, allant des besoins de l'école, des livres, du papier, des stylos, et aussi des appareils ménagers. B. Apa yang kamu beli di sana? Apa yang kamu beli di sana? Qu'est-ce que vous achetez là? A. Aku hanya membeli selusin pulpen. Aku hanya membeli selusin pulpen. Je n'ai acheté qu'une douzaine de stylos. B. Berapa harganya? Berapa harganya? Combien ça coûte? A. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. B. Selusin pulpen harganya 5.000 rupiah. Selusin pulpen harganya 5.000 rupiah. Une douzaine de stylo coûte 5.000 rupiah. Jadi per buah harganya kurang dari 500 rupiah. Jadi per buah harganya kurang dari 500 rupiah. Donc, le prix de sa cang est moins de 500 rupiah. Murah sekali. Murah sekali. Il n'est pas cher. Apa kualitasnya bagus? Apa kualitasnya bagus? Est-ce que la qualité est bonne? A. Ya, lumayan. Ya, lumayan. Oui, assez bon. Aku membeli untukku dan adikku. Aku membeli untukku dan adikku. Je les ai achetés pour moi et ma sœur. B. Baiklah, nanti sore aku ke sana. Baiklah, nanti sore aku ke sana. Eh bien, cet après-midi, j'irai là. Chers auditeurs, c'était Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou bien en streaming de www.voi.co.id. Vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je présenterai des chansons pop chantées par Uta Likumahua. On va écouter la première chanson intitulée Puncak Asmara, chantée par Uta Likumahua. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons pop chantées par Uta Likumahua. Il est né le 1er août 1955. Il est le chanteur pop indonésien qui est populaire avec son chant intitulé Puncak Asmara dans les années 80. La plupart des chansons ont la nuance de jazz rock avec un rythme plus énergique. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Uta Likumahua intitulées Quand tu existes.
Jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.